Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Jésus aime les pécheurs ». Ça peut être, ça va vous surprendre, mais je voudrais encourager les pécheurs au milieu de nous, parce que Jésus les aime. Et j'aimerais qu'on lise ensemble trois textes dans le meilleur des livres de la Bible, à savoir l'évangile de Luc. Le premier texte se trouve au chapitre 4 et au verset 18. Nous sommes là au début du ministère de Jésus et Jésus se rend à la synagogue dans son village de Nazareth. Puis on va ouvrir le livre d'Ésaïe devant lui et puis comme par hasard entre guillemets, nous sommes sur ce texte qui aujourd'hui est classifié au chapitre 61, je ne pense pas que c'était le cas à l'époque, et qui nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, entre parenthèses, écrite 7 siècles auparavant, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Mais, on lit au verset 28, un peu plus loin. Dans la synagogue, tous furent remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces paroles. Il y a eu d'autres paroles après, mais cette parole en fait partie. Le deuxième texte se trouve dans le chapitre 5 du même évangile. On va lire les versets 27 à 32. Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Et le dernier texte, il est dans le chapitre 15. Chapitre 15, et on va lire à partir du verset 1. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmurèrent, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Amen. Vous qui avez lu les évangiles, vous vous êtes certainement rendu compte que Jésus, par sa manière de faire, a perturbé et a déstabilisé les hommes religieux de l'époque. Les pharisiens, les scribes, dont il nous est parlé dans ces textes, étaient en colère après Jésus à cause de sa manière de faire. Ils finiront même par être tellement en colère qu'ils vont le faire crucifier. Pourquoi y a-t-il un tel problème entre des pharisiens qui se réclament de Dieu, qui sont sincères, qui sont les représentants de Dieu? Jésus les appelle à un moment donné les successeurs de Moïse. Pourquoi un tel écart entre leur manière de penser et celle de Jésus? Un des points essentiels, je crois, c'est que leur vision du royaume de Dieu était basée sur de mauvaises bases. Ils étaient basés sur la méritocratie, la bonne application de la loi et des traditions. Alors que la vision du royaume de Dieu, celle de Jésus, elle est basée sur la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime d'une manière inconditionnelle? Ça a l'air de vous réjouir. Ils sont comme à Colombier, hein, c'est la joie intérieure. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Et je réalise, ça fait plus de 40 ans que je suis le Seigneur. Plus ça va, plus je réalise combien son amour a été inconditionnel pour moi. Et plus je me présente devant vous en ayant la certitude que je n'y suis pour rien et que je n'ai jamais rien mérité. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit « Mon Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'est pas venu mourir pour nous parce qu'on l'a mérité, hein, parce qu'on était des gens bien. Mais c'est alors qu'on était encore pécheurs. Et puis, à la fin du chapitre 8, on connaît tous ce texte. Et qui vient après le chapitre 7, je vous rappelle, où Paul dit « Paul, grand homme de Dieu, déclare, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Mais voici ce qu'il déclare. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ces textes de l'évangile de Luc que nous avons lus en introduction nous montrent qu'on peut regarder les pécheurs de deux manières. Soit on les regarde de haut, en pensant que nous sommes meilleurs, et que nous n'avons pas besoin de changer d'attitude ou de nous repentir. On pourrait faire allusion à une autre parabole que Jésus donne, celle du pharisien et du publicain qui prient dans le temple, et où le pharisien dit « Je te loue de ce que moi je fais ci, moi je fais ça, et que je ne suis pas comme lui. » Ça, c'est une première manière de regarder les pécheurs. Une deuxième manière, c'est de les regarder avec l'amour de Dieu, de penser qu'on n'est pas meilleur qu'eux, et de désirer pleinement que, comme nous avons été rachetés par grâce, eux puissent l'être aussi. Amen. On va voir trois points ce matin dans cette prédication. Le premier, c'est que Jésus aime les pécheurs. Le deuxième, c'est que Jésus a vaincu le péché. Et le troisième, c'est que Jésus est venu pour changer la vie des pécheurs. Amen. Ces trois points vont ensemble. Si on s'arrête et on dit « Jésus aime les pécheurs », ça pourrait déstabiliser les gens. Ça pourrait les encourager à rester dans le péché. Mais quand on voit l'ensemble de ces trois points, nous allons le constater, eh bien nous comprenons quelle est la démarche de notre Seigneur. Premier point, Jésus aime les pécheurs. Il dit dans ces textes que nous avons lus qu'il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Tout comme un médecin n'est pas là pour soigner ceux qui sont en bonne santé, mais ceux qui sont en mauvaise santé. Dans Ésaïe 61, ce texte que Jésus lit dans la synagogue de Nazareth, il nous est dit pour qui il est venu. Et j'ai relevé des mots qui sont utilisés par le prophète Ésaïe, les malheureux, les cœurs brisés, les captifs, les prisonniers, les affligés, les endeuillés, les découragés. En fait, Dieu ne s'intéresse pas à ceux qui se proclament justes et qui pensent ne pas avoir besoin de lui. Nous avons toutes sortes de personnes dans notre entourage qui sont ce qu'on appelle les gens bien pensants, les gens qui pensent comprendre tout et savoir tout, et qui n'ont pas besoin qu'on vienne les aider. Jésus doit se détourner de ces personnes tant qu'elles ne reconnaîtront pas qu'elles ont besoin de lui. Et il se tourne vers les délaissés, les discriminés, ceux qui sont montrés du doigt, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont appelés gens de mauvaise vie. C'est étonnant, non ? De la part de celui qui est parfaitement saint, en qui il n'y a pas l'ombre d'un péché. C'est étonnant. Et c'est ce qui déstabilisait les pharisiens lorsqu'ils voyaient Jésus à table avec ces gens de mauvaise vie. Oh, quelle horreur ! Mais comment Jésus aurait pu les amener au salut en restant à distance, en les ignorant et en les méprisant ? Je crois que c'est une question fondamentale. Quel est le regard de l'Église sur notre pays, sur notre entourage où l'on voit que les ténèbres s'épaississent et que les gens s'enfoncent de plus en plus dans le péché ? Sommes-nous dans la réaction en levant le petit doigt ? Oh, je suis choqué ! Oui, bien sûr, on est meurtri et on est touché au plus profond de nous de voir les choix que font les hommes en responsabilité dans notre pays. Mais ce qui devrait grandir dans nos cœurs, c'est la compassion et l'amour de Christ pour ces gens qui s'égarent et qui s'éloignent. J'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant plusieurs années et une de mes frustrations, c'était de constater en fait qu'il n'y en avait que pour les bons élèves et que pour les élèves en difficulté, alors je dis une généralité bien sûr, au milieu de tout cela il y a des gens, des enseignants, des cadres qui s'occupent des élèves en difficulté et il y en a beaucoup. Mais le système est fait de telle manière que sont mis en avant ceux qui travaillent bien, ceux qui sont sages, ceux qui sont polis, etc. Et puis ceux qui sont mauvais élèves, instables, indisciplinés, sont montrés du doigt et rejetés. Et au lieu de les aider, on les enfonce. Mais ça, c'est la nature humaine. La nature humaine, elle est élitiste par définition. Et voilà, si je vous pose la question, si vous faites construire une maison, est-ce que vous allez choisir le meilleur maçon ou le plus mauvais ? Honnêtement, on va tous faire la même chose, hein. On veut toujours les meilleurs. Mais moi, je suis confondu de ce que notre Dieu n'est pas élitiste. Dieu crée à partir de rien. Et il peut faire du plus vil des pécheurs un homme pour sa gloire. Amen. Le message de l'Évangile, c'est premièrement la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus est venu après lui. Il a dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». La même chose que Jean-Baptiste. Et puis Pierre, à la Pentecôte, lorsqu'il prêche, qu'on lui demande ce qu'on doit faire, il dit « Repentez-vous ». C'est le message. Et ce message s'adresse à ceux qui éprouvent le besoin de cette repentance. Donc on comprend pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler les justes. Il n'est pas venu vers les justes, mais vers les pécheurs. D'ailleurs, quand on parle des justes, de qui parle-t-on ? Dans la parabole de la brebis perdue, on lit au verset 7, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance ou qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » On réalise ici que Jésus parle en fait pas de ceux que lui, il a déclaré justes, mais de ceux qui se proclament justes. Parce qu'un chrétien, même de longue date, il a toujours besoin de changer d'attitude, on est d'accord. Un chrétien de longue date ne peut pas dire « Ah oui, Jésus, tu peux me laisser, va t'occuper des autres, moi je n'ai pas besoin de toi. » Jésus ne se détourne pas de ceux qui le suivent, bien au contraire. Mais il se détourne de ceux qui disent « Moi, je suis juste. » Et on en croise des gens, hein, quand on les appelle à la repentance, ils disent « Mais pourquoi ? J'ai rien fait de mal. J'ai pas volé, j'ai pas tué. » Je n'ai pas commis l'adultère. On sait que dans une autre parabole, celle de la noce du fils du roi, les élites vont refuser l'invitation. Et Dieu va envoyer le roi va envoyer ses serviteurs sur le bord du chemin. Et vous savez ce qu'il y a sur les bords du chemin à l'époque, hein ? Les brigands qui vous attendent pour vous dépouiller. Il y a les mendiants, il y a les handicapés, les rejetés, il y a même les prostituées. Et c'est ces gens-là qui vont venir au repas des noces. J'aimerais t'encourager ce matin. Peut-être que tu es de ceux qui se sentent rejetés. Tu es de ceux qui ont été délaissés. Tu es de ceux qui ont été pointés du doigt. Peut-être que même toi, tu t'es persuadé que tu n'es pas digne, que Jésus s'intéresse à toi. Encore hier, je suis aumônier de prison. Et lorsqu'on s'est rendu dans la salle d'aumônerie, il y a un détenu qui est passé, puis il nous a regardé, il nous a dit « Oh, Dieu ne veut pas de moi. » Alors je lui ai dit « Tu te trompes, Dieu t'aime. » Il est parti. Mais en fait, des gens se persuadent qu'ils sont tellement mauvais. Donc c'est bien hein, de reconnaître qu'on est pécheur, mais il ne faut pas que ça engendre une telle honte qu'on se dise « Mais là, je suis tellement mauvais que Jésus, il ne s'intéresse pas à moi. » Et parfois, nos églises, la religion chrétienne, a divulgué un tel message que les pécheurs se sentent rejetés par Dieu, alors qu'ils doivent entendre que Jésus les aime. Amen. Donc si tu te sens rejeté, j'aimerais te dire que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver, qu'il n'a que faire de ton péché. Pourquoi il n'a que faire de ton péché ? Ben, c'est le deuxième point. Jésus, il a vaincu ton péché à la croix. Amen. Jésus a vaincu ton péché à la croix. J'aurais pu intituler cette partie « Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché ». C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Mais j'ai envie de dire plus que ça. Jésus aime le pécheur et il a vaincu le péché. Amen. Il dira à la femme adultère, c'est un texte extraordinaire aussi, hein, le texte de la femme adultère, qui va être lapidé par ces fameux pharisiens et scribes, et où Jésus intervient. Et lui dira ceci, « Moi, je ne te condamne pas non plus. » Mais il ajoute, « Va et ne pêche plus. » On voit bien que Jésus, s'il aime le pécheur, il n'encourage pas le pécheur dans son péché. D'ailleurs, il exhorte à bien des reprises. Il dira même à ses disciples et à d'autres qui étaient là lors du sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc Jésus ne baisse pas le niveau, attention. Hein. Jésus ne baisse pas son niveau d'exigence. Mais Jésus aime le pécheur. Parce qu'il a vaincu le péché, et que s'il peut vaincre le péché en nous, alors il peut nous dire ensuite, vous pouvez être parfait comme le Père Céleste est parfait. Il encouragera les disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il nous encourage dans la prière à demander pardon pour nos péchés. Comme d'ailleurs aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à prier aussi pour que eh bien, nous ne soyons pas induits en tentation et que nous soyons délivrés du mal. Dans la parabole du cep et du sarment, dans Jean 15, Jésus nous encourage à rester attachés à lui, à demeurer en lui. Et cela dans un but bien précis, c'est de porter du fruit à la gloire de son Père. C'est évident que si on vit dans le péché, on ne porte pas de fruit à la gloire de Dieu. Dans Matthieu 11, 28, ce texte que vous connaissez tous, il dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, oppressés », suivant les termes, on trouve toutes ces expressions. Et certains commentateurs disent que cette oppression, cette charge, elle vient du péché qui est sur nous. Ce n'est pas le stress de la journée au travail, etc. Savez-vous que le péché entraîne une oppression, un stress ? Un poids sur nos vies. Et Jésus, lorsqu'il dit « Venez à moi », c'est pour nous soulager, nous donner du repos par rapport à tout cela. Parce qu'en nous enlevant le péché, vous avez tous vécu ça, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Combien on se sent léger quand on a compris qu'on a été pardonné de nos péchés. Amen. Que notre péché a été vaincu sur la croix. Mais Jésus, dans ce passage, il ajoute « Prenez sur vous mes instructions. » Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Ah, comme je me sens léger, c'est formidable. » Mais il faut aussi après entrer dans le chemin de la sanctification. le chemin du perfectionnement. Sortir du péché, c'est pas sortir de l'adultère, c'est pas sortir du vol, du meurtre, du mensonge, etc. Sortir du péché, c'est rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Le mot péché signifie manquer le but, manquer la voie que Dieu a tracée pour nous. Et souvent on se trompe parce qu'on lutte contre les conséquences du péché. Et on se bagarre contre nos mauvais penchants, contre notre mauvaise nature, notre caractère. Mais en fait, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de rentrer dans ses plans. Et si nous rentrons dans ses plans et dans sa volonté, croyez-moi, rapidement vous verrez disparaître tout ce qui est mauvais en vous. Parce que dans les plans de Dieu pour vous, il n'y a rien de mauvais. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Dans le plan de Dieu pour toi, il n'y a rien de mauvais. Les pharisiens, ils observaient la loi. Certains d'entre eux disaient qu'ils le faisaient. Peut-être que ce n'était pas si évident. Mais certains, je pense que certains étaient vraiment au top. Hein. Très forts, très consciencieux, très appliqués dans l'application de la loi, les traditions. Mais ils avaient un gros problème. C'est qu'ils refusaient Jésus, le Fils de Dieu. Et vous pouvez être bien sur toute couture si vous refusez le Fils de Dieu. Jésus nous dit que la colère de Dieu reste sur vous. Celui qui croit dans le Fils, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas dans le Fils, la colère de Dieu reste sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Leur destinée aux pharisiens et aux scribes, c'était d'accueillir Jésus comme le Messie et de promouvoir son ministère. Au lieu de ça, l'orgueil et la jalousie vont les pousser à crucifier notre Seigneur. J'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin. Jésus a vaincu le péché qui habitait en toi, qui habite en toi. Et il veut t'en délivrer. Et c'est la troisième partie. Jésus est venu changer la vie des pécheurs. J'aimerais juste faire référence à un texte qui se trouve aussi dans l'évangile de Luc. Juste avant l'appel de Lévi, qu'on a lu tout à l'heure, qui est Matthieu aussi, Jésus appelle Pierre. Et vous savez dans quelles circonstances ça se passe? La pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'on peut en parler? Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans la pêche miraculeuse? C'est pas la pêche miraculeuse. C'est le fait que Pierre ait découvert qu'il était pécheur et qu'il tombe à genoux devant Jésus et lui dit « Retire-toi de moi parce que je suis pécheur ». Et ce qui est encore plus miraculeux, c'est que Jésus ne s'est pas retiré. Vous avez remarqué ça? Jésus ne s'est pas retiré. Alors que nous, dans notre logique humaine, et c'est normal, on dit « quand on découvre combien on est sale, combien on est impur, on ne peut plus se présenter devant Dieu ». Et c'est normal. Il a eu une bonne attitude, Pierre. Sauf que Pierre, il n'avait pas encore compris la dimension de l'amour de Christ pour lui, pour sa vie. Et ce qui est encore plus extraordinaire que le fait que Jésus ne se retire pas, vous voyez qu'il y a des choses extraordinaires dans ce récit, hein, autre que la pêche. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Jésus va prophétiser sur Pierre. Quelqu'un qui vient de dire « Je suis pécheur », Jésus prophétise sur lui et dit « Tu seras pécheur d'homme ». Amen. C'est extraordinaire. Moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Et j'aimerais te dire ce matin que Jésus a prophétisé sur ta vie. Jésus a un plan pour ta vie. Il ne prophétise pas seulement sur Pierre ou les grands hommes. Il prophétise sur chacun d'entre nous. Sur chacun d'entre nous, il a prophétisé parce qu'il n'a pas regardé à notre péché. Mais il a regardé à ce qu'il avait prévu pour notre vie. Et ce qu'il a prévu pour ta vie, c'est extraordinaire. Tout comme ce qui a été prévu pour Pierre était extraordinaire. Il fallait être Jésus pour dire à Pierre à ce moment-là, tu seras pécheur d'homme, et ne pas se tromper. Parce que Jésus ne s'est pas trompé. 3 ans plus tard, Pierre, prêche devant la foule rassemblée lors de la Pentecôte. Et il va pécher 3000 âmes. 3000 conversions, mes frères et sœurs. Et ce sera que le début. Je ne peux pas vous dire combien d'âmes sont venues à Christ par le ministère de Pierre. Mais quelle destinée extraordinaire pour quelqu'un qui se déclare pécheur. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que oui, nous ne sommes pas dans la méritocratie. Et souvent, on regarde les gens, honnêtement, il y avait 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute. 120 personnes, il y avait le choix quand même. Il y avait le choix. Il y avait les apôtres qui étaient là. Qui est choisi pour aller parler à la foule? Pierre. Honnêtement, c'est le dernier qu'on aurait choisi, nous les hommes. Même nous les responsables, l'Église. C'est le dernier qu'on aurait choisi. Il avait renié Jésus 3 fois. On aurait dit, attends Pierre, au moins 4-5 ans, là, tu vas te ranger, tu vas rester tranquille, tu vas remontrer à tout le monde que tu vaux la peine, et puis après on verra si tu peux prêcher. C'est comme ça qu'on fonctionne. Encore une fois, Jésus ne baisse pas le niveau. Mais Jésus a vaincu le péché. Il a pardonné Pierre et il a fait de lui une nouvelle créature. Il l'a rempli de son Saint-Esprit juste avant qu'il prêche. Et Pierre peut s'avancer devant la foule. Lui qui est qu'un simple pécheur, qui n'a pas fait l'école des prophètes, qui n'a pas fait... Il a rien. Et il parle avec une aisance extraordinaire. Et rempli du Saint-Esprit, les gens sont convaincus de péché. Il nous est dit que les gens ont eu le cœur vivement touché. Amen. Alléluia. Je pense à Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Il lui dit prophétise. Prophétise sur ces eaux. Prophétise. Peut-être que tu n'es rien. Tu es comme un ossement desséché, éparpillé sur le sol. Et sache que Dieu prophétise sur ta vie. Et il a des plans extraordinaires pour toi. Amen. Si tu es pécheur, délaissé, rejeté, méprisé des autres, et peut-être même de l'Église parfois, sache que Jésus, lui, il t'aime. Si tu es en lutte avec le péché, rappelle-toi que Jésus a vaincu le péché. Toi, tu ne peux pas le vaincre. Mais Jésus a vaincu le péché. Et même s'il est encore là, il est vaincu. Parce que tu es pardonné, lavé, purifié, si tu te repens. Sache que Jésus peut changer ta vie aujourd'hui et te faire entrer dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Il a prononcé des paroles sur la vie de Pierre. Il a aussi prononcé des paroles sur ta vie. J'aimerais qu'on puisse baisser la tête, prier quelques instants. Ce moment est très sérieux. Et je crois que Dieu ne parle pas au hasard. Je crois réellement que beaucoup peuvent être dans la culpabilité et que le Seigneur est venu nous libérer de cette culpabilité pour nous faire entrer dans les voies qu'il a préparées d'avance. Il n'y a pas un homme, une femme qui arrive sur cette terre pour laquelle ou pour lequel il n'y a pas un plan de Dieu prévu. Il n'y a pas une personne qui arrive au hasard. Et peut-être que toi, tu as, toute ta vie, on t'a dit que de toute façon, toi, tu ferais rien de bon. Toi, de toute façon, tu es nul. Et que, ben, évidemment, concernant le royaume de Dieu, tu ne vas pas pouvoir servir à grand-chose. Mais rappelle-toi de la prophétie d'Ésaïe, qui nous explique pourquoi Jésus est venu. Pour qui Jésus est venu? Il est venu pour toi qui as le cœur brisé. Il est venu pour toi qui te débat, qui est captif de ton péché, qui ne t'en sort pas avec certaines addictions impures. Il est venu pour toi. Il est venu pour vaincre le péché en toi et te faire rentrer dans la destinée qui t'est réservée. Alléluia. J'aimerais t'inviter à t'approcher de lui. Je ne vais pas demander aux gens de se lever. C'est un cœur à cœur avec Dieu auquel je vous invite ce matin. Un cœur à cœur avec le Seigneur. J'espère que personne ici ce matin dit « Moi, je n'ai pas besoin de changer d'attitude. » Et que tous, nous venons devant lui, comme l'apôtre Pierre. « Oui, Seigneur, je suis pécheur, retire-toi de moi. » Et la réponse de Jésus, c'est une parole prophétique sur ta vie. Il a de grands projets pour toi. Ne t'écarte pas de la voie qu'il a tracée. Ne te culpabilise pas. Ne déclare pas que tu ne feras rien de bon. mais déclare qu'en Christ, tu es une nouvelle créature et que Dieu peut toute chose au travers de ta vie. Il crée à partir de rien. Même si tu n'es rien, il peut faire de toi un grand serviteur, une grande servante pour son royaume. Amen. Seigneur, je te prie, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour. Seigneur, souvent nous sommes à la recherche de ta puissance, nous sommes à la recherche de démonstrations, de miracles et de prodiges, mais la plus belle manifestation de ta grandeur et de ta puissance, c'est ton amour. Ton amour qui dépasse notre entendement, ton amour qui peut être inconditionnel alors que nous, nous en sommes incapables. Seigneur, je prie au nom de Jésus que par le Saint-Esprit, tu puisses passer de l'intelligence au cœur maintenant, pour que tous dans ce lieu comprennent la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de ton amour. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Merci pour ton amour manifesté pour chacun de nous. Merci pour ta parole maintenant qui prend semence dans les cœurs. Et maintenant, je la dépose avec confiance parce que je sais que maintenant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fera porter du fruit à cette semence qui a été portée ce matin. Je rends gloire et grâce à ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis.